Lors du 10e numéro d'Hors Série, avec Axel Peltanche et Elliot Grunewald, nous avions poursuivi la conversation hors antenne. Ce supplément rassemble notamment plusieurs projets inscrits dans le monde de la musique. Du coup, on reprend. Est-ce qu'on peut parler de tes projets Alors, il y a eu Trax pour Axel dans la musique, entre autres, hein, parce que tu as aussi fait, il n'y a pas longtemps, le dernier album de Midsizer, il me semble.
Ouais. Pour le coup, juste en tant que designer, là, par exemple.
Ok. Bah, on pourra en parler.
Oui, bien sûr.
Et Elliot, toi, tu as un rapport à la musique et... aussi assez fort, puisque tu as travaillé pour deux albums de Laylo, Moody Monk et Johann Papa Constantino. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça se passe, voilà, ce travail-là de designer et typographe? Je ne sais pas si tu as la double casquette sur ces projets-là.
Enfin, en tout cas, c'est juste parce que c'était aussi dans la commande, quoi. En gros, qu'il fallait... Enfin, j'avoue que ça aurait pu être des fontes existantes, mais là, en gros, l'idée à chaque fois, c'était de... Enfin, c'est que moi aussi, par pur plaisir, quoi, c'était de dessiner des lettrages en plus de faire le reste du graphisme, quoi. Dans le temps le plus vieux, entre guillemets, même si c'est vraiment pas très vieux, c'était avec Laylo, pour son premier album, enfin, pas son premier album, mais le premier album sur lequel j'ai travaillé avec lui, c'était Trinity, et entre autres, le premier, ça a démarré, en fait, eux, ils cherchaient, en fait, parce que c'est vrai que c'est lui, mais aussi son équipe, il est entouré de entre autres, le noyau dur, un peu trois personnes qui s'occupent, enfin, qui travaillent avec lui, quoi, pour plein de, enfin, pour un peu pour toutes les tous les besoins qu'il a, enfin, en production, justement, en DA, la question de label, distribution, etc., etc. Et en gros, c'est pour ça que oui, je t'ai envoyé le premier son là du début de l'émission qui était Megatron de Laylo, parce que de cet album-là, parce qu'en fait c'est le premier son sur lequel j'ai travaillé où ils avaient besoin, bah, comme tout le monde, c'est avant l'album de sortir un single ou plusieurs pour annoncer un peu l'album. Et donc ça, c'était Megatron. Et en fait, moi, ils sont venus me voir parce que j'avais commencé à expérimenter un peu avec des formes de fonte un peu en 3D. Comme à ce moment-là, il y en avait beaucoup d'ailleurs. Enfin, disons que l'outil se devenait un truc. Enfin, moi, le premier que j'avais envie d'expérimenter, quoi, en me disant qu'est-ce que c'est de la typo en 3D, comment on en fait. En fait, c'est juste de changer d'outil, quoi, parce que c'était au lieu de travailler ça en 2D sur un logiciel d'éditeur de fonte type Glyph ou FontLab, bah, là, c'était d'utiliser, entre autres pour moi, Blender en 3D et de voir comment je pouvais dessiner une fonte dans cet espace-là. Et en fait, ça leur avait plu, ils avaient vu un peu ces images-là. Et donc, c'est ce qu'on a fait pour Megatron, pour la cover de l'album, et puis ensuite pour les affiches. Et affiches qui annonçaient aussi, entre autres, son concert à l'Olympia. Et en fait, c'était le premier concert, on va dire, après la sortie de l'album. Donc voilà, c'était un peu un tout. Et puis ensuite, évidemment, après ce titre-là, je crois qu'on a fait deux autres covers de singles. Et puis la partie album, donc le logo Trinity, tout le graphisme qui allait autour, parce que justement il y a justement une déclinaison autour de ce mot Trinity, enfin qui est trinitaire, un truc en trois parties, etc. Enfin, qu'on a décliné un peu à l'infini, j'en ai fait des centaines, je crois. Et voilà, et en fait c'est du coup une... comme dans plusieurs projets, quoi, une relation un peu qui se crée avec un client et puis des collaborateurs, quoi, qui existe encore toujours aujourd'hui, même beaucoup, enfin, je suis en plein dedans, quoi, pour des projets d'ailleurs concernant Laylo, mais aussi d'autres choses. Et puis je pense que c'est ça le... Enfin, c'est ça qui est super là-dedans, quoi, c'est que, en fait, à chaque fois, c'est des phases assez longues. Eux, ce qui est très appréciable, c'est que... Alors, je vais dire ça, mais ils s'y prennent à l'avance, alors que pas du tout, on est toujours dans des timings horribles à la fin, mais quand même, ils commencent à y réfléchir très tôt. Et en fait, c'est vraiment hyper appréciable de bosser avec des gens qui ont vraiment, enfin, plein d'envie, qui ont peur de rien, entre guillemets, tu vois, qui ont pas peur d'essayer des choses, qui hésitent pas, en fait, à aller aussi voir d'autres choses, à sortir de leur propre milieu, tu vois, pour aller voir. Je parle entre autres en termes de forme, etc., quoi, d'aller voir autre chose. Et ouais, du coup, c'est très agréable, confortable et intéressant de travailler avec ce genre de clients, quoi.
Et puis ce qui est intéressant, c'est que tu sais pas une musique au départ, par exemple pour Laylo, que tu écoutes forcément, je veux dire, le rap.
Ouais, c'est vrai.
Contrairement à toi, Axel, c'est plutôt...
Oui, non, on s'est même rendu compte avec un autre pote.
J'écoute pas Lilo pour des convictions personnelles. Je
rigole. Mais non, mais oui, en gros, c'est vrai. Mais je pense que c'est... On se l'est, tu vois, je ne l'ai pas dit dès le début. Hein, le premier rendez-vous, je ne suis pas arrivé en disant... franchement, je ne connais rien en rap. Je ne vois pas pourquoi vous faites appel à moi. Enfin, voilà. Évidemment que je me suis pas vendu. Mais tu vois, j'ai fait en sorte que ça fonctionne, quoi. Mais c'est vrai que oui, je pense, contrairement à beaucoup d'autres gens, je suis beaucoup moins au courant, enfin j'ai beaucoup moins de connaissances quoi dans ce style de musique là quoi. Mais je crois qu'en fait peut-être même eux, enfin inconsciemment, c'est ce qu'ils voulaient quoi, parce que même l'image de cet artiste là, elle est pas, je pense que justement là qu'ils essayent de travailler quoi, c'est-à-dire à pas faire des choses communes, à pas ressembler à d'autres personnes, à pas s'inscrire dans un cadre défini, etc. Et justement à pas hésiter à en sortir. Et donc c'est toujours pareil, c'est sûr que si tu fais appel à quelqu'un qui n'est pas de ce milieu-là, bah, c'est beaucoup plus simple d'avoir des idées, une manière de travailler, etc., qui est différente, et donc qui te permettra d'arriver à ce résultat-là qui est... je peux pas dire, je vais jamais dire qu'on a révolutionné les codes, ou tu vois que c'est ultra avant-gardiste et tout, pas du tout, mais en tout cas, c'est ce qu'eux voulaient, c'est-à-dire... Enfin, on a même eu ce genre de discussion très longuement en disant, tu vois, qu'est-ce que c'est un type de rap, quoi. Enfin, quand parce que des gens peuvent demander ça, tu vois.
Mais
c'est pas du tout leur cas.
Mais les discussions, tu les as avec l'artiste ou tu les as avec...
Ouais, les deux. Okay. En fait, il est... Ouais, ce qui est génial, c'est qu'il... Comme je disais, il a un noyau un peu dur, quoi, de trois personnes et qu'ils sont très proches les uns des autres. Ils se connaissent depuis très longtemps. Et en fait, à chacun un peu son statut. Ils discutent... tout le temps, tous les quatre, quoi, pour toutes les questions. Mais il y a une personne qui s'appelle Osman, qui entre autres est un peu son... Justement, si on prend les trucs DA ou directeur de création, un peu, c'est-à-dire qu'il s'occupe vraiment toute la... chaque fois qu'il est question d'image, etc. Mais lui, quand même, Lelo est très investi dans ce processus-là, quoi. C'est pas du tout un truc qu'il laisse faire, tu vois, aux autres, etc. C'est à chaque élément, moi, j'ai pas forcément son retour direct, mais il aura quand même... donner, tu vois, enfin il aura quand même un mot à dire là-dessus, quoi. Même s'il leur fait confiance aussi, tu vois, il y a des choses que je pense les autres poussent, et aussi quand moi je le pouvais, je disais, je pense que là il faut y aller là-dessus, quoi, tu vois, il faut pas hésiter, etc., même si c'est peut-être pas ce que vous imaginiez, je pense que... Et voilà, donc il est à la fois très investi là-dedans, tout le monde l'est, mais en même temps ils sont ouverts, tu vois, et puis chacun a un peu son expertise, quoi. Comme moi, évidemment, des fois, il parle de choses que je maîtrise pas du tout et que j'écoute, tu vois, quand on parle aussi de je sais pas, de contexte dans lequel ça va se retrouver, telle ou telle affiche, ou etc., etc. Donc, et puis, oui, je pense que le fonctionnement et le fait que, bah, c'est preuve que ça a aussi très bien marché, c'est que ça, bah, il y a eu un deuxième album, L'étrange histoire de Monsieur Anderson, et puis... Et puis ça continue encore.
Et
quoi.
Un disque d'or ou de platine, non?
Ah oui, des trucs. Oui, c'est vrai qu'on en a parlé parce que
les objets.
Ouais, c'est vrai parce que c'est des objets à designer, quoi, que je ne savais pas. Mais en fait, on t'appelle quand t'es disque d'or, on t'appelle. Enfin, ensuite, tu reçois un mail, tu vois presque. Tu dis, ouais, bon, bah vous êtes disque d'or, quoi. C'est pas quelqu'un sonne à ta porte, tu vois. Enfin, l'artiste et puis dire voilà le disque d'or, regardez, il est magnifique. C'est en fait faut le faire toi-même, quoi. Mm-hmm. À tes frais, évidemment. Et du coup, moi, quand ils m'ont dit faut que ce mois-ci on règle ça et tout, on veut se faire des disques d'or et tout, parce qu'évidemment c'est un accomplissement, quoi, énorme aussi, quoi. Et puis ça récompense en fait toute une équipe, enfin très large, tu vois, tous les gens qui gravitent autour d'eux. Donc c'est aussi un cadeau que tu leur fais, quoi, parce que t'as ces trucs de petites plaques gravées et tout, et donc
en même temps, pour le coup, là, la musique, elle met vraiment tout le monde sur un plan horizontal avec cette récompense, parce que même, enfin, tu as reçu un disque.
Ouais,
aussi,
ouais, ouais.
Comme étant le graphiste
de
l'album.
Je pense que c'est pour ça que eux, ça leur tienne vraiment à cœur, quoi. En fait, ils sont très, il y a un côté très aussi, tu vois, fidélité, tu vois, il y a un truc de groupe, enfin, un truc genre, bon, on a fait ça, on en est hyper fiers, on l'a fait tous ensemble et tout, et donc on vous remercie pour ça, tu vois. Et c'est vrai que rien que le temps même qu'on a passé à designer ce truc, parce que c'est trop bien, en fait, tu fais ce que tu veux, quoi. Vraiment, t'as pas de... Alors, ils font presser, tu vois, presse un truc en or, mais en soi, sinon, tu fais ce que tu veux. Tu peux avoir la taille de cadre que tu veux, en plexi, en verre, tu peux faire graver, tu peux imprimer dessus, enfin, voilà. Mais donc, c'est trop... Enfin, en fait, c'est intéressant, parce que y a ce délire un peu de designer un trophée, quoi, tu vois. Et donc, ouais, rien que le temps et l'investissement qu'ils mettent là-dedans. Et puis, puis la production des trucs, tu vois, de dire, je sais plus, le premier, je crois qu'on en a fait... Je crois qu'il y avait une centaine de noms, tu vois, un truc dans le genre. Donc, c'est vrai, c'est beaucoup, quoi. Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'artistes qui en fassent autant. Et puis, voilà, pour remercier tout le monde. Et puis après, il y en a un autre... je crois que c'était pour le deuxième album, et on a fait direct le disque de... Je sais plus, pas le disque d'or, mais la suite, platine.
Platine.
Ouais, voilà.
Et après, c'est pareil, tu vois. Diamant, non ? Ouais. C'est ça, platine, diamant.
Enfin, voilà, je sais plus. Et celui-là, moi, j'ai même pas fini le truc, c'était juste avant l'été, et puis j'étais plus vraiment à Paris, mais voilà, enfin... Ils en font un, et pas forcément, tu vois, les font pas tous. Le but, c'est pas de s'en accrocher 10 chez soi, mais c'est vrai que ça symbolise un truc en termes de projet et des collaborateurs qui est... Ouais, qui est
pour
sympa,
le coup,
quoi.
Ouais, qui, ouais. Qui est réel, quoi, qui existe.
Ouais, exactement. Façon. Et c'est vrai que même pour moi, de voir ce truc, je me suis dit à ce moment-là, ouais, c'est, enfin, tu vois, il s'est passé un truc quand même avec eux, quoi. Ça a été, c'est des projets, tu vois, qui vont me rester, évidemment.
Ouais, tu fais
quoi.
Partie de l'équipe.
Ouais, enfin, bah, pour le coup. Après, évidemment, non, chacun, attends, tu vois, il voit sa manière, voilà, niveau, c'est mais... ça, à mon échelle, quoi. Ouais. Mais oui, il y a ce truc où, et puis même maintenant, on s'entend méga bien, quoi. Et même je travaille avec certains de ces collaborateurs-là, pardon, pour d'autres projets. Mmh. Donc, c'est que...
Et toi, comment ça s'est fait, alors, avec Midsizer sur son dernier projet ?
Moi, c'est avec son label. On se tournait un petit peu autour depuis quelques temps. Tu vois, la famille Savoir-Faire, Animal 103, on essayait de trouver des sujets sur lesquels travailler. Et en fait, plusieurs fois, pour des questions de temps, j'avais pas pu faire un projet avec eux. Et là, ils sont arrivés avec un projet qui était en fait assez simple parce que la direction en termes d'image, elle était faite. Ils avaient choisi l'image qu'ils voulaient mettre devant. Ils avaient choisi le single. Et ils avaient aussi presque choisi, comment dirais-je, le déploiement. Sizer, il avait un passif avec des covers d'albums qui sont uniquement photographiques. Donc on a continué de faire ça. Et en fait, moi, je me suis simplement... consacré à la mise en vinyle, quoi, l'objet et le graphisme. Donc, tu vois, dans un album, on cherche toujours à avoir une sorte de mise en forme du nom de l'album qui devient un peu un lettrage que tu vas pouvoir retrouver derrière sur les affiches pour les tournées.
Ouais,
pour
c'est des faux logos un peu. Quoi.
Voilà,
ouais.
C'est une sorte de une manière de typographier aussi les titres que tu vas retrouver quand les singles sortent pour tous les usages que nous d'ailleurs on fait rarement en tant que graphiste, mais tu vois, qui sont faits par les maisons de disques, ouais. Tout ça.
Bannières et tout, tu veux dire.
Ouais, voilà, les bannières web, ouais. Etc. Donc en fait, moi, je me suis vraiment attaché à ça et projet assez rapidement développé, très très contrasté justement, parce qu'il y a une image très douce, qui est très mélancolique, c'est dans le jardin de sa mère, c'est une photographie de lui en train de bricoler son scooter, tout ça. Et sur le graphisme, on a joué à fond le contraste, noir-blanc, très 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 frontal et justement, comme c'est un album... qui marquait un petit peu son retour un peu physique à Paris, retour dans la musique, confirmation en tant que chanteur. Je pense qu'il avait vraiment envie de mettre un peu en avant les gens qu'on travaille avec lui. C'est pour ça que il n'y a pas vraiment de titre et crédit. Tout est un peu traité typographiquement de la même manière. Tout est un peu frontal. Les collaborateurs, les ingé-sons, le nom des auteurs. Le nom des featuring, etc., etc., mais même des designers, de la personne qui a pris la photo, des personnes qui remercient dans le livret, etc., et elles sont pratiquement toutes traitées de la même manière, dans un corps qui est assez conséquent, il n'y a rien qui est vraiment mis de côté sur le plan typographique. Donc, je pense que c'était aussi une manière pour lui de fêter un peu ça. Mais donc voilà, ça s'est fait tout simplement comme ça, mais à peu près comme tous les projets dans la musique, il y a souvent en général une rencontre d'abord ou un truc qui traîne.
Alors, il y a quelques autres questions que j'ai à poser qui ont de but en blanc pas vraiment de rapport, en tout cas comme ça. Donc, on va le faire un peu sans transition. Mais c'est vrai qu'avec Elliot, on avait parlé de la question du spécimen. Que toi, tu n'étais pas d'accord avec... avec l'idée du spécimen, que pour toi, ça avait... ça n'avait rien à faire tout seul une typographie dans le sens que l'outil spécimen tu l'approuvais pas vraiment. Est-ce que tu peux
disons que je l'approuve disons qu'il est essentiel, quoi. Enfin, l'idée du spécimen, c'est essentiel, c'est-à-dire il faut pouvoir il faut pouvoir, je sais pas, essayer de, ça permet d'écrire le caractère que tu dessines, peut-être l'expliquer, le montrer surtout dans ses plus belles, ses plus beaux atours, quoi. Essayer en tout cas. Et enfin moi d'ailleurs c'est un truc que j'aime beaucoup faire parce qu'en plus c'est hyper, enfin en tout cas dans mon cas quoi, vu que je dessine et je distribue moi-même les caractères. C'est complètement libre quoi, c'est vraiment un truc que je fais, enfin vraiment je fais ce que je veux pour le coup. Et bon après j'essaie évidemment que ce soit raccord avec le caractère en question. En gros moi l'idée c'est que, enfin je prends beaucoup de plaisir à faire ça parce que je raconte en gros une petite histoire quoi, c'est vraiment un truc de ce genre là mais le truc sur lequel je suis plus critique ouais c'est le même si en même temps ça me permet, ça m'empêche pas de d'apprécier parfois énormément ce genre de spécimen, mais c'est, tu vois, le spécimen de X pages, tu vois, qui monte un caractère, tu vois, dans juste une suite de mots, voire juste de lettres, tu vois, qui ont aucun sens, sur du papier blanc, et tu vois ça en taille très grande, puis moyenne, puis toute petite.
En cascade. Enfin,
voilà, tu vois, genre le truc. En fait, c'est plus que... Et ça peut être... Ouais, je le dis franchement, ça peut être très, très beau, et ça peut... Et même moi, je peux m'en servir, tu vois, même en tant qu'outil, parce que quand je sais pas, par exemple... C'est le cas aussi de beaucoup de vieux spécimens, entre guillemets, quoi. Mais tu vois, quand je sais pas, c'est de voir... bon, je peux en parler de Garamond, genre de truc. C'est quand même éblouissant, et ça te permet quand même vraiment de voir ce que c'est que ce caractère-là. Mais disons que moi, dans ma pratique... C'est peut-être justement lié aux formes et aux types de fonte que je dessine, mais bah, je trouve que c'est toujours plus intéressant d'y mettre un contexte, en fait, quoi. Que du coup, une fonte sans contexte, bah, t'apprends pas beaucoup de choses, quoi. En fait, tu vois ces formes-là, mais t'as du mal, en fait, je trouve, à saisir vraiment ce que c'est que cette fonte, entre autres, comment elle fonctionne, dans quel endroit elle fonctionne bien, dans quel autre elle fonctionne pas bien, etc., etc. Et que juste faire des variations de taille, en gros, en une couleur, enfin en noir sur du blanc, ça aide pas beaucoup à ça, quoi. Et donc, moi, j'essaie, mais aussi parce que, comme je te disais, je prends beaucoup de plaisir à ça, à chaque fois les mettre dans un contexte complètement fictif. D'ailleurs, je joue avec ça, j'aime bien aussi raconter ce truc de faux, entre autres, de faire des faux, quoi, de faire des fausses affiches comme ça, ou des fausses covers comme ça, etc. Mais pour dire que, entre autres pour moi, c'est un peu genre l'utilisation fantasmée quoi, de ma fonte, entre guillemets. Et en fait, je trouve d'ailleurs que... Pardon.
Non, je voulais dire qu'il y en avait eu un spécimen, non, pour Canif.
Tout à fait.
Et qui avait demandé l'intervention de plusieurs designers.
Ouais, pour le coup, pour ces raisons, là, on avait un peu botté en touche et on s'était dit, il n'y a pas de raison que... qu'on présente le caractère sous son meilleur jour ou qu'on fasse des cascades ou quoi, autant demander tout de suite à des graphistes de notre entourage ou des gens d'ailleurs qui avaient utilisé le caractère assez tôt, autant leur demander leur point de vue et leur laisser une sorte de carte blanche et faire ce qu'ils voulaient du caractère, et ça a donné des résultats assez... assez divers, assez surprenant, mais
qui fonctionne très bien en tant que spécimen, voilà.
Qui pour le coup est pas que dans la forme, enfin, puisque
non, parce qu'il y avait des textes qui avaient été écrits, il y a des gens qui avaient donné des interprétations, il y a même des gens qu'on fait des spécimens sans la fonte, qui était plutôt une sorte de transcription visuelle de ce que leur évoquait la fonte, tu vois. Tu vois le côté aigu de Canif, etc. C'est vrai que ça remonte beaucoup pour moi. Tu vois, j'ai fait Canif, mais ça fait presque tellement plus partie de mon quotidien, même mon environnement visuel, que je le vois comme un truc presque un peu de mélancolique. Mais ce spécimen, il était assez marrant parce qu'il était quand même très très fourni et très très grand pour un truc qui montre une fonte monochasse juste en régular et en italique, mais c'était un peu le jeu aussi, c'était un peu la volonté quoi, c'était une fonte un peu bête quoi. Donc le spécimen, le ressort, c'était aussi un peu ça quoi.
Ouais, mais de l'emmener à un autre endroit, je trouve que c'est intéressant aussi pour ces questions de spécimen.
Ouais, bien sûr. Et puis à titre personnel, en tant que designer, ça te permet de voir comment le caractère est perçu quoi. Parce que justement, nous on l'avait vraiment dessiné comme un caractère de labeur, de texte. Et en fait, il y a eu très peu d'usage en ce sens, parce que les gens se sont attardés sur des histoires de dessins, de corrections optiques, de détails, etc., qui moi, n'étaient pas du tout ce que je voulais montrer du caractère. Et d'ailleurs, je crois que Guillaume Graal, il l'utilise quasi exclusivement encore 10, 11, et moi, à une époque, le seul usage que j'ai fait de Canif, à titre personnel, c'était pour mes factures. Tu vois, c'était vraiment un usage
ouais, mono,
très mono-chat. C'est rien d'autre. Une taille de corps.
Non, mais en même temps, c'est intéressant le fait de le donner, tu vois, à quelqu'un d'autre. Enfin, en fait, dès le début, de dire le spécimen, alors que normalement, c'est un des objets, les seuls objets que design les fonderies et les typographes avec leur fonte, même à ce moment-là, déjà de le donner à quelqu'un d'autre, tu vois.
Ouais, bien sûr.
Et d'ailleurs, si même on élargit le truc, c'était, enfin, ce dont on a parlé aussi, c'est que, enfin, pour moi, si je sais pas, tu cherches à je sais pas, à trouver un peu des références en typo, tu vois, de telle ou telle époque. Enfin, c'est toujours mille fois plus intéressant de voir comment ces caractères-là ont été utilisés dans plein de contextes, entre autres sur des pochettes d'albums, sur du packaging, dans des films, etc., que d'ouvrir le spécimen de l'époque de la fonderie en question, tu vois, qui va te montrer le caractère, mais qui te montre tellement peu de choses par rapport à ce que, justement, l'utilisation et la mise en contexte t'apportent. Enfin, ça change tout, quoi.
Tu veux dire que le spécimen, ça peut enfermer la typographie ?
Bah, je pense que, en tout cas, pour moi, ça donne vraiment une surface, quoi. Après, évidemment, dedans, c'est aussi dans ce genre de document que tu peux avoir aussi des textes explicatifs sur la démarche du designer, ses références, d'où ça vient, etc. J'enlève pas ça, mais c'est vraiment formellement, tu vois. J'aime aussi, comme tu dis, quand d'autres gens utilisent ces fontes-là, tu vois, souvent, elles peuvent être aussi maltraitées, tu vois, ou dans des contextes inattendus et tout. Mais je trouve que c'est ça qui rend aussi intéressant ce genre de fonte. Alors bon, je pense là, en écoutant, que ça concerne beaucoup des fontes, tu vois, de display, quoi, de titrage et tout. Mais voilà, ouais, je trouve que c'est bien de l'avoir... ouais, utilisé, un peu, parfois même ouais, un peu abîmé, etc. Et ça en dit beaucoup plus, quoi. Ça t'apprend beaucoup plus de choses sur la fonte et comment elle fonctionne ou comment, entre autres, elle ne fonctionne pas, quoi.
Mais de manière générale, d'ailleurs, c'est le sort qui est réservé à tout ce qu'on fait. Moi, quand je fais de l'identité visuelle, après, une fois que je livre...
ouais, t'attends de voir ce qui se passe.
Ça va vivre de manière autonome, et je dessine un caractère, tout en sachant justement que c'est pas moi qui vais l'utiliser.
Voilà, ouais, mais ça, cool. On en avait parlé d'ailleurs, de aussi ne pas avoir de problème avec le fait de ne pas maîtriser la suite, donc, parce que le typographe, souvent, intervient à un moment dans le projet, mais ne va pas maîtriser, une fois la livraison de la typographie, ce qui va se passer, ouais, et l'utilisation de...
Bah, encore plus quand tu vends des licences, quoi, parce que tu sais même pas à qui tu vends, tu choisis pas... Et tu sais pas du tout où ça va se retrouver, quoi. Donc tu maîtrises rien du tout, alors que ça peut être des projets sur lesquels tu as passé des années, quoi.
Donc, on en a parlé ensemble d'ailleurs de la vente des typographies, du piratage entre guillemets des typographies. Quel est votre avis dessus? Parce que je sais que Elliot, tu n'avais pas trop de problèmes au départ, jusqu'à ce que tu te rendes compte que finalement, même si tu mettais une version réduite de la fonte, en fait, ça permettait quand même de produire un logo, une identité.
Bah ouais,
et que du coup, ça devenait un problème. Fontes, et toi, Axel, il me semble qu'il y avait eu quelque chose aussi avec tes typographies, une question qui s'était posée à un moment, justement, sur cette question du libre service et de.
Je sais pas à quoi tu pensais exactement, mais ouais, la question des licences, etc., c'est un peu compliqué. Personne n'a trouvé, je pense, la formule
ouais,
idéale.
Voilà,
à la
ça
fois,
concerne tout le monde, donc
je m'en fous un peu, presque, parce que moi, comme je t'expliquais, maintenant la typographie, ça fait plus du tout partie de mon modèle économique, tu vois. Donc c'est plus un bonus qui tombe tous les trimestres, en l'occurrence. Mmh. Mais tu vois, je suis pas en train de surveiller les chiffres, j'en parle d'ailleurs jamais, elles sont pas sur mon site,
mais
elles vivent leur vie, tu
au-delà
vois.
Au-delà d'un point de vue économique, mais plus de la question de l'auteur et de
mais oui,
comment
oui,
ça
oui,
circule.
Mais oui, bien sûr, bien sûr. Mais moi, c'est plus justement la fonderie qui s'en occupe, tu vois. Mais c'est vrai que parfois, il y a des customs qui sont faits ou des copies assez ouvertes de fontes que j'ai pu sortir, mais c'est pas...
Et en même temps, ça les fait circuler aussi, hein,
ouais,
au départ.
Il y a des choses, il y a aussi des formes qui sont attrapées parce qu'elles sont dans l'air du temps. Ou, ouais. Donc bon, je veux dire, il y a beaucoup de gens parfois qui vont dire que telle production a été copiée ou quoi, surtout les leurs ou quoi. Alors, c'est pas si vrai que ça. Il y a aussi des choses qui sont des canons dans la typographie, il y a aussi des choses qui sont amenées à revenir, il y a aussi des dessinateurs qui se retrouvent à sortir des caractères assez équivalents au même moment pour des raisons, tu vois.
Ouais, c'est clair, même des trucs de droit d'auteur et
de
tout,
mode, de tendance, ouais, mais oui, moi je t'avais parlé, ça me revient, de plutôt quelqu'un qui m'avait qui m'avait contacté en pensant que pour un logotype qui est sur mon site, là, pour la marque du designer canadien qui s'appelle Colin Meredith, qui m'avait dit « Tiens, je trouve ça un peu curieux, ça ressemble quand même beaucoup à un caractère typographique que j'ai dessiné. » Donc c'était quelqu'un que je connaissais ni d'Ed ni d'Adam, et je trouvais sa démarche un peu cavalière, tu vois, sachant que le caractère que j'ai utilisé, c'est un caractère de chez ITC des années 60, qui en fait la personne en question avait copié sans le savoir, tu vois. Donc en fait, elle me reprochait d'avoir copié son revival sans
marrant,
savoir.
C'est des trucs qui sont arrivés pas mal à l'école, je me rappelle, pendant enfin pas pendant mes études, mais après, ouais, à d'autres étudiants où il y avait même des fonderies qui écrivaient pour dire oui, ça c'est comme ci, comme ça. Et puis en fait, on leur expliquait, parce qu'à ce moment-là, j'étais assistant, que en fait, c'est le problème du revival, quoi. C'est qu'à partir du moment où tu réinterprètes une version d'une fonte qui était plus ancienne, bah, t'es d'accord avec le fait que t'es certainement pas le seul à pouvoir le faire, quoi. Non, donc, tu t'exposes à ça. Voilà. Mais ça, ce qui est assez drôle, c'est que ça concerne plutôt des fontes, justement, plus display, expressive et tout.
Ouais, parce que c'est sûr que bon, on reproche rarement à quelqu'un d'avoir fait une linéale.
Ouais, exactement.
Comme si c'était une copie d'Helvetica ou du Nika.
J'ai des exemples à l'appel, tu vois, de ce genre de truc, en disant c'est assez proche de tel truc, ou alors que j'en parle pas assez, etc. Tu vois. Tout le monde, c'était pas pour Airbus, tu vois. Je dis, tout est dans le nom, tu vois. Donc, si j'en parle pas assez, enfin, c'est
bien sûr, bien sûr.
Mais après,
mais ça,
évidemment,
ça relève aussi de la culture typographique. Ouais, tu vois, exactement. Par exemple, le Stanley de Ludovic Ballan, enfin, Yoann Minet qui avait travaillé aussi dessus, il s'appelle Stanley parce que c'est un revival du Times, et c'est Stanley Morrison. C'est si tu sais pas.
Mais je veux dire, on va pas le dire à chaque prise, tu vois, à chaque utilisation et tout. Et c'est ça qui est. Mais c'est pour ça que, dans l'idée, je pense que. On s'en fout un peu de ça, tu vois. Enfin, je pense que à partir du moment où t'es un peu droit dans tes bottes, tu sais ce que t'as fait, de quelle manière et pourquoi. Bah, après, il y a toujours des gens qui vont essayer de venir un peu, ou d'ailleurs, comme tu disais, dans ces trucs de piratage de fonte. Tu vois, les mecs qui ont vraiment envie de pirater une fonte et l'utiliser sans payer de licence, ils peuvent. Tu vois, comme tu dis, il y a pas de moyen pour vraiment sécuriser ça et contrôler ça. Bon, après, c'est leur problème, tu vois. Enfin, je me dis, les gens qui ont un peu connaissance de ça, qui respectent un peu ce travail-là, et puis surtout qui ont envie de potentiellement travailler avec d'autres de tes fonds, parce que s'ils le font une fois et que tu vois ça, bah, c'est sûr qu'après, c'est fini, quoi. Bah voilà.
Mais enfin, tu proposais un texte juste pour les auditeurs qui écouteront le podcast. Tu proposais ce texte Call It What It Is de John Donner qui est disponible.
Sur le site Émigre.
Le site Émigre. Tu peux nous en dire juste quelques mots, deux, trois mots.
Ouais, bah en fait, c'est un texte qui est assez. Enfin, je pense, qui est intéressant. Surtout pour, par exemple, pendant les études, quoi. Un truc qui. Parce qu'en fait, il s'est proposé de. Donc, c'est un texte qui parle du revival typographique, donc c'est-à-dire de réinterpréter un caractère ancien, enfin passé, peu importe. Enfin, souvent, il est quand même assez âgé, parce que ça paraît bizarre de faire un revival sur une fonte qui est faite par un de tes contemporains, quoi. Mais en gros, de le réinterpréter, de le redesigner, de le cloner, etc. Et lui, justement, se propose de catégoriser un peu tous ces types de revival-là, entre autres en deux grandes parties, mais après avec des sous-parties, etc. Afin d'expliquer un peu, de donner... Parce que c'est vrai qu'en tant qu'étudiant, en dessin de caractère, t'es amené à faire ça. C'est même un des premiers exercices qu'on va te proposer de faire, de dire alors fais des recherches sur telle ou telle famille de fontes ou un caractère très particulier et tu vas en faire une version à toi qui t'est propre. Et en fait, c'est tu te retrouves là-dedans. Souvent, tu regardes des fontes, comme tu disais, quoi, c'est vraiment des canons de beauté, typo et tout. Tu te dis, mais moi, je me situe où là-dedans? Enfin, tu vois, quelle légitimité j'ai? Est-ce que j'ai le droit d'y toucher? De quelle manière? Et donc, à quel point je me base ou pas sur le dessin de base, quoi. Et en fait, lui, justement, il y a toutes ces catégories-là. Et en fait, ce qui permet à chacun de se retrouver dans telle ou telle catégorie. Comme je te disais, moi, il me semble que je ne sais plus, je l'ai pas lu depuis un moment, mais c'est plutôt un truc de deuxième partie où il y a un truc où tu dérives un peu du dessin initial, évidemment. Ce truc dommage, évidemment, entre autres, moi, pour Airbus, c'est vraiment ce truc-là dommage parce que je combine plusieurs caractères d'une même personne qui représente pour moi, c'est une synthèse un peu de cette époque, enfin, du caractère de ces époques-là, quoi. etc., etc., jusque évidemment au clone, à la copie, au plagiat et tout, qui sont évidemment les trucs qui paraissent plus péjoratifs, mais qui en fait parfois sont hyper intéressants, quoi, quand quelqu'un se décide. Après, évidemment, quand ça c'est bien expliqué, qu'on a un peu le détail de ce projet-là, mais tu vois, quelqu'un qui décide de faire un caractère qui est purement basé sur. J'en sais rien, moi, le Futura, tu vois, et en disant, j'essaie de recapturer l'essence même de ce que Paul Renner a voulu faire, tu vois, un truc dans ce genre-là. Et ça, ça peut être aussi hyper intéressant, alors que le caractère, il est... vraiment, la pratique du designer, c'est de copier le plus possible, quoi, d'être au plus près de la source, quoi. Mais je pense que toutes ces définitions-là sont valables, en fait. C'est juste que... il faut en être conscient, simplement. Il faut l'avoir choisi, je pense.
Mais quand même, ça tourne un peu en rond. Enfin, même là, il n'y a pas de... Oui, il n'y a pas de réponse
exactement.
Radicale.
Alors que
y a
lui
pas de
essaie d'en donner, hein, il me semble.
Ouais. Axel, tu as cité plusieurs fois Guillaume Gral pendant...
J'apprécie pas particulièrement cette personne, mais...
Pendant la conversation et quand on s'est parlé, je vous avais demandé si vous souhaitiez faire des lectures de textes. Bon, on n'a pas eu le temps, mais on aura au moins eu le temps de parler d'un. Et puis tu m'as envoyé un des textes de Michael Rock qui s'appelle Fuck Content, qui a été écrit en 2009. Mm-hmm. Et aussi une phrase de Guillaume Gral. Est-ce que tu peux nous la dire? Est-ce que tu peux nous en parler? Pourquoi cette phrase elle t'a marqué et elle te poursuit?
Non, parce qu'elle est très efficace. Elle a plusieurs lectures et elle est assez dure. Mais moi, je suis quelqu'un, tu vois, de très, enfin, assez dur avec moi-même, assez exigeant. Donc, elle me convient en fait, un peu comme sorte de moto. Et il m'avait dit, on a les clients qu'on mérite. Et c'est vrai que ça conditionne pas mal ta position en tant que designer, comment tu dois mettre les conditions pour qu'un projet se déroule bien. Parce qu'en fait, parfois, simplement, quand t'entends certaines personnes ou certains designers se plaindre de leurs conditions... de travail, tu te rends compte en grattant un peu que c'est parce que eux ont pas fait le boulot nécessaire, genre, ou de pédagogie, ou d'accompagnement, ou même des fois d'ordre technique, etc. Donc forcément le client se retrouve un peu dépassé par le projet, ou perdu, ou alors il a pas ce qu'il venait chercher, ou ce dont il a besoin, parce qu'il se figurait le projet autrement. Mais si toi t'as pas fait le travail au fur et à mesure, etc. En effet, un client lambda ou qui aurait pu être un bon client peut devenir un mauvais client. Et après, tu vois, c'est comme ça que moi je l'entendais. Je l'entendais moins comme toi. Tu avais semblé
sur
la comprendre.
De classe de
sur
de
ouais,
client,
sur la nature des projets. Vraiment, non. Je pense que c'est plus à voir dans l'aspect, tu vois, humain du projet. Même si en off, on parlait aussi de cette phrase de Ezra Petronio qui disait qu'on mesure la qualité d'un magazine à la qualité de ses publicités. Je crois que c'est à la qualité et pas à la quantité. Et ce que je trouve assez vrai, hein, parce qu'en fait, quand tu fais un bon magazine, les gens ont envie d'y figurer et après, c'est un effet boule de neige et la publicité, c'est un cœur économique assez important pour les magazines. Donc forcément, c'est entraîné avec le reste, quoi. Mais ouais, on a les clients qu'on mérite, elle est assez dure, mais elle fait du bien de temps en temps pour se remettre un peu en question, etc. Et moi, tu vois, comme je l'ai vraiment en tête cette phrase, j'ai plutôt la chance de pouvoir dire que je travaille avec des gens qui sont toujours à l'écoute de ce que je fais, qui viennent me chercher pour ce que je fais, parce que j'essaie de mettre en place, tu vois, un langage qui est assez clair, j'essaie de tout de suite expliquer... ce que j'ai besoin dans le projet pour le mener à bien. Je définis beaucoup, par exemple, les livrables. Tu vois, ça, c'est une sorte d'impondérable. J'ai besoin de savoir ce que je livre à la fin. Parce que, tu vois, c'est un peu ce qui arrive au moment de la transaction. Donc, c'est clair que quand je fais un logo, je fais un logo. Quand je fais une identité visuelle, qu'est-ce qu'on met dans ce paquet-là? Logo, gamme chromatique, typographie d'accompagnement, template, charte graphique ou pas, etc. Et tu vois, au final, cette phrase qui est hyper courte et assez insignifiante, elle engage... elle déclenche plein de sortes de réflexes.
Un peu comme le Just Do It, quoi.
Mais un peu, bien sûr. Mais tu vois, elle est assez rude, et il y a des gens qui voudraient à tout prix trouver un contre-exemple ou dire que c'est pas vrai. Évidemment que parfois ça peut arriver qu'un projet se passe pas.
Oui,
c'est pas un projet. Malade, mais... Voilà, c'est pas une fin en soi. C'est pas
non,
toujours.
Non, mais c'est vrai aussi. Ça permet aussi de dire ce truc où on... J'ai l'impression qu'on se plaint beaucoup aussi des clients, etc. Tu vois, il y a quand même un truc où on dit... Et justement, peut-être que ça rejoint ça, où tu dis parfois, je pense qu'on remet assez facilement, tu vois, la faute sur le client, et le commanditaire, dans le sens, le brief n'allait pas, ou la demande ne va pas, ou cette personne-là même ne va pas. Et que, alors ça ne veut pas dire que c'est du coup forcément entièrement notre faute, mais que je pense que ça peut venir de plein d'autres paramètres, quoi.
Ouais, bien sûr. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à faire... à fournir, au-delà même de juste être un bon graphiste qui fait une belle affiche, tu vois, pour qu'un projet se passe bien, être capable d'injecter, tu vois, de la culture au fur et à mesure des projets, des références, faire en sorte qu'un projet il soit, tu vois, incarné, avoir une sorte d'énergie, tout ça, ça peut être de notre ressort. Il y a des graphistes qui sont très passifs, tu vois, qui attendent que tout soit fait par le client, et puis pour délivrer. Et puis moi j'essaye vraiment de, tu vois, d'être très généreux, et c'est pas une question justement de vouloir tout
diriger,
faire dans le projet, c'est pas une question de vouloir être directeur artistique sur tous les projets ou quoi, mais justement il y a des projets parfois qui peuvent paraître totalement insignifiants, mais en fait tu peux les transformer en des choses qui vont vraiment transformer le regard de ce client qui connaissait pas le design, et après c'est là où tu déclenches des collaborations au long cours, ou alors que tu atteins un statut qui fait que les gens viennent vraiment te voir parce qu'ils ont entendu que ça se passait bien avec toi. Restez, ils te font déjà confiance a priori.
Mais c'est vrai que ça aide aussi, je pense, quand
tu vois,
petite notoriété dans un milieu dans lequel tu veux travailler, c'est sûr que c'est...
Ouais, c'est très très important pour moi que tu vois, j'essaye de... que tous les aspects du projet... se passe bien,
ouais,
pas juste être un bon dessinateur de caractère quand c'est ce qu'on me demande, tu vois, mais aussi être tu vois, quelqu'un qui accompagne bien le projet, et en fait plus tu mets d'énergie là-dedans, plus t'acquiers un peu de pouvoir, selon moi,
et que ça se passe bien, et que le résultat est d'autant plus,
ouais, voilà, tu vois.
Mais je trouve que c'est un truc aussi, même après nos études et tout, on s'en est compte, je me rappelle moi avoir eu ce déclic où pendant mes études tu regardes des trucs, et puis parfois tu vois juste, enfin tu ne vois que la forme parce que t'es jamais vraiment au courant des projets et tout, et puis d'un coup, tu vois un truc dans la rue ou quoi que ce soit, et tu te dis putain, pour que. Enfin, quand tu commences à travailler, je veux dire que tu commences à expérimenter un peu et vraiment vivre ce genre de moments compliqués de gestion de projet, de personnes, de clients, etc. Après, tu vois des trucs dans la rue et tu te dis parfois, putain, pour que ça ait une place comme ça dans la rue, c'est que le boulot derrière, il est tout sauf formel. Enfin, je veux dire, la forme, à la limite, devient juste un élément, tu vois, assez facile, quoi. Mais le reste est vraiment impressionnant, quoi. On imagine, en tout cas.
On va s'arrêter là.
Dommage.
Ouais, on pourrait continuer encore on y réfléchira peut-être un jour.
J'ai vraiment l'impression d'avoir...
comme Batman en 3 épisodes.
Très peu parlé.
Et ouais, et pourtant, c'est déjà... Ça fait... 45 minutes qu'on a repris pratiquement, tu vois.
C'est trop.
Mais peut-être qu'on se re-rencontrera à un autre moment et avec une autre configuration. Moi, j'avais apporté cette phrase de Godard parce que je la cherchais quand on s'était vu avec Axel dans son atelier qui est aussi son appartement. Enfin, on n'en a pas
donjon.
Parlé d'ailleurs de cette configuration de travail. Il faut confronter les idées vagues avec des images claires. Il me semble que c'est issu de La Chinoise, donc du film de Godard. Et je trouvais que ça semblait rassembler pas mal de choses. On s'arrête là et voilà. Ce supplément marque la fin de ce 10e numéro d'Hors Série. À bientôt pour un nouvel épisode sur Duo Radio. Les larmes
sont le sang de l'âme. J'ai toujours une arme en fond de gamme. Avant de me faire plomber, que je crève, je dois essayer de dompter mes rêves. Faudra que tu t'appliques si tu veux notre bif. En un clic, on te fait sauter le soutif. Fais ce que tu peux, je vais pilonner au mortier. Tu ferais mieux d'apprendre à avorter. Rime sale, ballers. Rime mal, honneur. À l'heure dans le building, chez nous pas de breadline. C'est la dalle qui donne l'heure. J'attends pas qu'on m'aide, passons. Je viens du bled pour la moisson. But, bouffe et boisson à foison. Pas de remède, il n'y a que du poison. Que du poison comme recycler la poudre pour remplir des douilles. Pendant que ton équipe attend la gicle et passe son temps à vider des couilles. Malhonnête mais pieux. S'il plaît à Dieu, un jour je sécherai les larmes et les torrents, les rivières derrière les fenêtres de mes yeux. Je me prends au cou de mes rêves, je fais la guerre, fais la trêve. Dans ma chanson, y'a autant de mélodies que y'a terre sur la terre. Tout comme mes congénères, j'aime tout ce qui est éphémère. Père et mère peuvent rien y faire, c'est le paradis. Où l'enfer, le paradis. Où l'enfer, le paradis. Où l'enfer. Père et mère peuvent rien y faire, c'est le paradis. Où l'enfer, le paradis. Chaque matin, un nouveau problème est naissant et blessant. Je m'endors et me lève avec mon fer. Il est comme moi, feignant et méchant. Faire du sale, quelle que soit la saison. Te mettre une balle dans le foie, le caisson. Je m'en bats les couilles de donner la bonne réponse. Je veux juste avoir raison. Je sors des cratères, à cette heure-ci, rien d'autre à faire. Nique ta mère par derrière, j'ai avalé l'hostie de travers. Depuis la cour, au couloir, j'ai dû courir pour tout avoir. Je sais que le pouvoir de l'amour n'est rien face à l'amour du pouvoir. Mon pire ennemi est dans le miroir, revoir ma Côte d'Ivoire. Tout est écrit dans le grimoire, le temps est gris noir, difficile d'y voir. C'est le son de la classée, juste laisse-nous passer. Ton sang est déjà glacé, seul ton ADN peut me tracer. Je me prends au cou de mes rêves, je fais la guerre, fais la trêve. Dans ma chanson, y'a autant de mélodies que y'a terre sur la terre. Tout comme mes congénères, j'aime tout ce qui est éphémère. Père et mère peuvent rien y faire, c'est le paradis. Où l'enfer, le paradis. Où l'enfer, le paradis. Où l'enfer. Père et mère peuvent rien y faire, c'est le paradis. Où l'enfer, le paradis. Où l'enfer, le paradis. Père et mère peuvent rien y faire. Personne ne peut rien y faire. Double rotor agressif. Et je prends même plus le périph. Je sais qu'il tourne comme tes seufs. Je sais qu'il tourne comme les keufs. Je sais que l'or sera molli. Et que l'argile durcit. Je sais que je suis mal poli. Et que je ne mérite pas mon sursis. Plutôt que d'avoir un grand cœur, je préfère avoir un grand palace. Car tu prends ta race le jour où les balles sortent du FAMAS avec rancœur. Je fais un hug à mes négros. Bison, Mikey et Popo. Mehdi, Pecoli, Goyo, Shell, Mi et Koto. Numéro 1 quand ça quittera. Numéro 2 d'Al-Qaïda. Je leur bouffe la schneck pour Mardi Gras. Si tu valides pas, on te fatiguera. Je monte sur le ring, dis bonjour au king. Dis au revoir au bling bling, bling bling. Je ferai du sale tant que la mort cérébrale ne sera pas sur le monitoring. Je me prends au cou de mes rêves. Je fais la guerre, fais la trêve. Dans ma chanson, y'a autant de mélodies que y'a terre sur la terre. Tout comme mes congénères, j'aime tout ce qui est éphémère. Père et mère peuvent rien y faire, c'est le paradis. Où l'enfer, le paradis. Où l'enfer, le paradis. Où l'enfer. Père et mère peuvent rien y faire, c'est le paradis.